RFI. Grand reportage.
C'est le temps d'un bilan en Afrique du Sud pour le Congrès national africain, l'ANC. Il y a 30 ans, des files interminables se formaient à l'extérieur des bureaux de vote pour le tout premier scrutin multiracial. Avec l'élection de Nelson Mandela, les Sud-Africains écoutaient plein d'espoir les promesses de son parti et rêvaient d'une société arc-en-ciel pour tourner la page de l'apartheid. Aujourd'hui, la corruption et les limites des politiques publiques sont passées par là. Les trentenaires, à qui on avait prédit une vie meilleure, ont vécu des expériences très différentes qui reflètent les défis du post-apartheid. Afrique du Sud, 30 ans plus tard, que deviennent les enfants de la liberté? C'est un grand reportage de Romain Chanson et Claire Bargelès.
Février 2024. Comme chaque année à cette période, le président Cyril Ramaphosa se rend devant les parlementaires habillés sur leur 31 pour le traditionnel discours sur l'état de la nation. Un discours un peu particulier cette fois-ci puisqu'il s'agit du dernier avant les élections et l'occasion de faire un bilan des 30 années au pouvoir de l'ANC.
Le 27 avril 1994, des millions de Sud-Africains ont déposé leur bulletin lors d'une élection démocratique. Et pour beaucoup, c'était la première fois de leur vie. Ce jour historique signait l'aboutissement de siècles de lutte. Une lutte pour libérer notre peuple de la souffrance, de la dépossession, de l'oppression et de l'exploitation, ainsi que de la pauvreté et des inégalités.
Cyril Ramaphosa se lance alors dans le portrait imaginaire d'une jeune trentenaire qui s'appellerait Tine Swallow et qui aurait bénéficié des politiques mises en place depuis 30 ans par le parti historique de Nelson Mandela.
Tine Swallow, democracy's child, grew up in a society...
Tine Swallow, cet enfant de la démocratie, a grandi dans une société gouvernée par une constitution basée sur l'égalité, l'état de droit et l'affirmation de la dignité inhérente à chaque citoyen. Les premières années formatrices de Tine Swallow ont été passées dans une maison mise à disposition par l'État. Tine Swallow a pu aller à l'école sans que ses parents n'aient à payer de frais de scolarité. Lorsqu'elle est entrée dans le monde du travail, elle a pu progresser et s'épanouir grâce au soutien des politiques d'équité en matière d'emploi et aux stratégies de discrimination positive. Et ceci est l'histoire de millions de personnes qui sont nées à l'aube de notre démocratie. Mais il est bien vrai que ce n'est qu'une partie de l'histoire.
La démocratie sud-africaine a-t-elle vraiment enfanté des Tine Swallow, des femmes dont l'ascension sociale serait le fruit des efforts du gouvernement envers les plus démunis? Nous prenons l'ascenseur pour retrouver une avocate qui nous attend dans le quartier chic de Sandton à Johannesburg. Elle a 32 ans, elle vient d'un milieu modeste et désormais elle plaide parfois devant la Cour constitutionnelle.
My name is Sinako Lindazwe.
Je m'appelle Sinako Lindazwe. Je suis née à Colesberg, une ville pauvre de la province du Northern Cape. C'est une petite ville où seuls les plus chanceux peuvent s'en sortir. Il y a de la pauvreté, le chômage est au plus haut, les jeunes se mettent à boire. J'ai eu la chance d'avoir une enseignante qui a dit à ma mère que j'étais une élève brillante et qu'elle devait faire en sorte de me sortir de là.
Sinako a été élevée par sa mère, secrétaire dans un hôpital, et qui a souscrit à un prêt pour la scolariser dans de bonnes écoles. Elle a ensuite financé ses études universitaires grâce à un job étudiant, une allocation du gouvernement, ainsi qu'une bourse de la région grâce à ses résultats scolaires. Nous lui faisons lire le discours du président Cyril Ramaphosa sur Tine Swallow.
Elle est née dans une société à des années-lumière de l'Afrique du Sud qu'ont connu ses parents, ses grands-parents et ses arrière-grands-parents. J'admets que ma mère n'a pas eu la chance d'étudier. Elle n'est pas diplômée, contrairement à moi. Mais je ne le dois pas au gouvernement. Je le dois à ma mère, qui a voulu faire bouger les choses pour ma famille. Si j'avais attendu le gouvernement, est-ce que j'en serais là, honnêtement? La réponse est non. Plus loin dans le discours, ils disent « Quand Tine Swallow est rentrée dans le monde du travail, elle a été capable de progresser et de prospérer. Avec l'argent qu'elle a gagné, elle a pu épargner. Mon Dieu, mettre quel argent de côté? C'est un drôle de discours. Je ne sais pas qui est cette Tine Swallow, mais ce que je sais, c'est qu'elle n'est pas noire. »
I can tell you for free. If it wasn't by will,
si je n'avais pas eu la volonté nécessaire, aujourd'hui, je serais à Colsberg. Je serais en train de boire comme les autres. C'était une question de volonté. Sinako, en Kosa, ça veut dire on peut. On peut triompher, on peut surmonter, on peut s'améliorer. Tinswalo, c'est juste le fruit de l'imagination de quelqu'un. C'est ce à quoi aurait dû ressembler l'Afrique du Sud.
Le portrait de Sinako renvoie l'image d'une réussite individuelle arrachée aux forceps. Mais combien de Sinako pour des millions de jeunes Sud-Africains diplômés et sans emploi ?
Mon nom est Soraya Williams, j'ai 32 ans. Juste après mes études, j'ai obtenu un emploi au sein d'une entreprise de construction. Ça a duré 8 ans, mais après le Covid, elle a dû fermer. Et c'est à ce moment-là qu'on a tous été licenciés.
Presque un Sud-Africain de moins de 35 ans sur deux est touché par le chômage, comme Soraya. Et malgré tous ses efforts, impossible de retrouver un emploi après la pandémie, d'autant qu'elle vient du township métis de Westbury à la très mauvaise réputation.
C'est vraiment dur de trouver un boulot quand on est jeune en Afrique du Sud. On postule, mais c'est difficile à cause de notre milieu. Ou peut-être parce que j'ai travaillé auparavant plusieurs années et les entreprises pensent que je serais trop chère à employer. La plupart du temps, en tant que personne métisse, nous sommes marginalisés et nous ne trouvons pas de travail à cause de nos noms de famille ou de là où on habite. On n'obtient pas non plus de recommandations. Il y a énormément de jeunes au chômage dans nos communautés et il y a beaucoup d'opportunités auxquelles nous n'avons pas accès.
Grâce à une maison des jeunes active dans le quartier, Soraya fait désormais du bénévolat au sein d'une organisation de lutte anti-drogue. Elle reçoit en échange un petit défraiement, mais tout juste de quoi faire survivre sa famille.
J'ai mon père qui est à la retraite et mon frère qui ne travaille pas. Et j'élève aussi mes 4 enfants. Dans une famille, c'est courant de trouver seulement une personne qui travaille tellement l'économie est mauvaise ici. Mais bon, que faire d'autre que continuer à se battre pour obtenir ce qu'on veut ?
Des exemples comme celui-ci, Bridget Monique, la responsable du centre des jeunes, en voit passer sans arrêt. Elle devait organiser un atelier ce matin, finalement annulé car le township est endeuillé après un week-end de fusillade entre gangs.
Le chômage, c'est vraiment la crise principale au sein de nos communautés. Si vous êtes jeune et sans emploi, vous êtes prêt à tout pour gagner un peu d'argent. C'est-à-dire que vous pouvez tomber dans la drogue et la vendre ou faire des cambriolages. Tous les problèmes dans notre quartier, c'est à cause du chômage. Si seulement le gouvernement pouvait donner à nos jeunes des choses à faire, tout cela n'arriverait pas. J'ai le cœur gros face à ce que traversent nos communautés.
La situation rend Soraya très amère vis-à-vis des promesses de la démocratie.
Non, c'est très décevant, car si on écoute les histoires de l'apartheid, les gens avaient du travail à l'époque, même les Noirs. Alors certes, je n'ai pas connu cette période, mais ça me donne la sensation que ces années étaient finalement meilleures comparées à aujourd'hui.
Des propos qui font frémir les générations qui se sont battues contre le régime ségrégationniste et qui ne sont pas rares dans la bouche de ceux que l'on surnomme les « born free », les « libres avec la démocratie ». Certes, l'Afrique du Sud a développé un système d'allocation sociale qui offre une petite base à près de 30% de citoyens et a également mis en place une aide supplémentaire post-Covid. Mais cela ne suffit pas, alors qu'un cinquième de la population continue de vivre sous le seuil de pauvreté dans un des pays les plus inégalitaires au monde. Si elle regarde ses conditions de logement, Bouli sent aussi la colère monter et ne se retrouve pas du tout dans l'histoire de Tinswalo.
Vous voulez voir à l'intérieur ? C'était une seule pièce, mais je l'ai divisée comme ceci pour avoir un peu d'intimité. J'y habite avec ma tante, ma grand-mère, ma nièce, mon neveu et mon garçon. Ma grand-mère et moi, on dort dans ce lit-là. Ma tante dort ici. Et ensuite, on sort un matelas en mousse pour que tous les autres dorment par là.
Bouli, qui garde un sourire accueillant et arpente les rues avec énergie, habitait jusqu'en 2017 à Soweto. Et la chambre qu'elle louait dans le jardin d'une maison était trop chère pour son petit salaire de 300 euros qu'elle gagne au sein d'une agence du gouvernement. Comme des centaines d'autres personnes, elle est alors venue construire illégalement un abri en tôle sur ce terrain public, loin au sud de Johannesburg.
C'est devenu immense. De ce côté-là, il y a d'autres cabanes, et même jusque là-bas. Quand il fait chaud, il fait vraiment très chaud dedans. Et pareil, quand il fait froid, on n'a pas l'électricité, et même les ordures, on les entrepose là-bas. Moi, je me lave ici, je mets la bassine juste là, et les toilettes sont installées dehors.
La mère de Bouli avait dans les années 2000 déposé une demande pour obtenir un des logements sociaux promis par l'ANC, mais elle est décédée sans avoir eu aucun retour. La jeune trentenaire sait que sa situation est désormais précaire puisque les autorités pourraient un jour ou l'autre venir la déloger.
Pour moi, avant, c'était trop cher. Et il faut bien que je survive, je dois acheter de la nourriture pour les enfants et les envoyer à l'école. Donc j'ai décidé de bouger ici pour pouvoir économiser le loyer. Je ne peux pas acheter de maison car on m'a dit que je ne rentrais pas dans les critères pour un prêt à cause de mon faible salaire. C'est très triste tout ça. Nous, on vote à chaque fois, mais l'ANC nous a laissé tomber. On attend des logements depuis 1994 et aujourd'hui, on vit toujours dans ces conditions.
Si accéder à un logement décent est un défi pour nombre de Sud-Africains noirs, l'accès à la terre est aussi un parcours du combattant. Dès 1913, une loi leur en limitait la possession à 7% du territoire. Depuis 30 ans, le gouvernement essaie de corriger cette inégalité, notamment avec des politiques de redistribution. Mais le fossé est encore énorme. En 2017, plus des deux tiers des terres agricoles détenues par des individus étaient entre les mains de propriétaires blancs. Ils sont pourtant nombreux, les jeunes agriculteurs noirs qui voudraient posséder leurs terres. Ils se retrouvent lors d'un salon organisé à Pretoria, parmi eux Lerato, 29 ans, élégante dans une robe couleur tournesol.
Je suis maraîchère spécialisée dans la culture des herbes aromatiques et différentes variétés de salades. Je voudrais au moins 30 hectares. J'ai déjà trouvé des terres qui m'iraient bien, où je pourrais soit installer des infrastructures, soit utiliser celles qui y sont déjà. Je crois que le gouvernement a acquis plus de 2 millions d'hectares de terres agricoles à travers sa réforme agraire. Donc oui, la terre est disponible pour l'agriculture, mais les démarches administratives sont trop lourdes, il y a trop de barrières à l'entrée.
L'ANC avait pour objectif de redistribuer 25 millions d'hectares de terres agricoles dès 1999, mais en 2015, seulement 9 millions l'ont été. Lerato pourrait essayer d'acheter les terres de son côté, mais là encore, il y a un blocage, les banques sont réticentes.
Je pense qu'on est traité très différemment à la banque. J'en ai fait l'expérience. J'ai un nom de famille associé au blanc, donc le comportement des banquiers est très différent quand j'échange avec eux par email ou quand ils me voient. C'est la réalité de ce pays. On est traité différemment. Quand vous sollicitez les banques commerciales surtout, elles vous demandent un apport de 40%. Donc si vous trouvez une ferme qui coûte 10 millions, vous devez apporter 4 millions. Mais en tant que jeune agricultrice noire, quelle est la probabilité d'avoir 4 millions dans son compte en banque? Et si c'était le cas, j'aurais déjà acheté les terres moi-même.
Malgré ses freins à l'entrepreneuriat, Lerato n'adhère pas aux revendications les plus radicales. Le Parti des combattants pour la liberté économique milite par exemple pour une expropriation des fermiers blancs sans dédommagement.
Il y a de la colère, c'est vrai. C'est lié au récit que la terre a été volée et qu'on voudrait la récupérer maintenant. Mais je ne pense pas qu'il faille combattre le feu par le feu. Il y a un moment où, en tant que pays, il faut commencer à travailler ensemble. Notre histoire est malheureuse, mais pour quelqu'un qui est né 3 mois après l'avènement de la démocratie, je ne peux pas m'accrocher au soubresaut du passé, je dois aller de l'avant. Ma grand-mère était ouvrière agricole dans un vignoble du Cap où elle était payée en vin. Entre ce qu'elle était et ce que je suis devenue, j'ai vu le changement. On n'a jamais eu de terre car on a grandi à Johannesburg où ma grand-mère pensait que ça serait plus simple de trouver du travail en ville plutôt qu'au village. Pour moi et ma famille, le fait que l'on retourne à nos racines, je trouve que c'est une belle évolution.
ne pas rester prisonnier du passé et de ses fractures. Ce désir vaut-il aussi en amour? Est-ce que les couples mixtes, interdits sous l'apartheid, sont de plus en plus acceptés? Carla, 27 ans, et Connor, 31 ans, nous reçoivent assis sur leur canapé chez eux à Johannesburg. Elle est métisse, originaire du township d'Athlone au Cap. Elle vient d'une famille conservatrice. Lui est blanc, fils de parents aux origines européennes, une famille libérale. Ils se sont rencontrés au travail en 2021 et avant de se mettre ensemble, leur relation a été l'objet d'une intense réflexion pour Carla.
C'est la première fois que je sors avec quelqu'un qui ne vient pas de ma culture ou qui n'a pas la même couleur de peau. Je viens du Cap, qui est une ville plutôt ségrégée, où les métisses restent ensemble, les noirs restent ensemble, pareil pour les blancs. Donc quand j'ai commencé à voir Connor, j'étais un peu stressée à l'idée de savoir ce que pourraient penser mes parents et mes amis. Il n'y a pas beaucoup de couples mixtes au Cap ou dans ma communauté. Mais en fait, ça n'a pas posé problème. Mes parents n'y ont pas accordé trop d'importance. Ils ont fait des blagues ou ils m'ont titillé, mais en vrai, ce n'était pas un problème.
Moi, je n'étais pas du tout stressé. Je n'ai pas eu à m'inquiéter de ce que mes parents pourraient penser ou dire. Je savais qu'ils seraient heureux de rencontrer Carla et je pense que ça renvoie l'image d'un certain privilège où le vécu d'une famille la rend nerveuse et l'invite à être plus protectrice ou méfiante.
Je dois dire que je t'ai étudié. Il a fallu que je m'assure que tu faisais partie des blancs sympas. C'est vrai que j'ai été confrontée à davantage de racisme de la part des blancs afrikaners. Mais ce que j'aime chez toi, c'est que tu ne parles même pas afrikaans. Je me suis dit, parfait, il est blanc, mais il est différent. Je ne voulais pas finir par subir des choses qui me déplaisent. J'étais très méfiante au début. Je voulais savoir comment tu te comportes avec les gens. Mais pour le moment, tout se passe très bien.
Oui, il faut en être conscient. On ne pourrait pas être ensemble si on ne gardait pas ça à l'esprit. D'habitude, je n'ai pas à me soucier de discrimination raciale, mais quand on marche ensemble, Carla en fait l'expérience et moi avec elle. Et quand on a visité un appartement, un agent immobilier a dit des choses horribles. Il a fallu qu'on s'en aille et qu'on en discute. On sait ces choses-là, mais soudain, vous êtes confronté à la réalité de ce qu'est un privilège. C'était une super conversation.
C'était beaucoup plus détendu que ce que je craignais. Tu veux jouer quelle musique?
Where the flowers grow.
Okay.
Sinako, Souraya, Bouli, Lerato et Carla ont des parcours plus nuancés que le modèle de Tin Swallow, mis en avant par le gouvernement de l'ANC. 30 ans de démocratie n'ont pas suffi pour réparer les inégalités d'un pays qui devra miser sur ses futures générations pour rester unis.
Afrique du Sud, 30 ans plus tard, que deviennent les enfants de la liberté? Un grand reportage de Romain Chanson et Claire Bargelès, réalisation Alice Ménard. Sometimes we